Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Romain Sion. Bonjour Romain. Alors,
bonjour Yannick.
Romain, vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est dans vos gènes, c'est dans votre ADN. Vous êtes responsable des fonds Europe au sein d'un très important fonds de capital risque. Et ce fonds de capital risque a une démarche éthique dans tous ses investissements, à la fois dans les entreprises dans lesquelles les investissements sont faits, mais aussi sur les bénéfices qui sont ensuite reversés à des ONG, ce qui est totalement imprégné chez vous dans votre ADN, et c'est l'objet du livre que vous venez de publier, qui s'appelle Génération Impact. Génération Impact, signé par Romain Sion, c'est un peu votre vie aussi, votre manière de penser, c'est aux éditions Baribal. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre, qui d'abord, on va commencer, est très bien écrit, parce qu'il est facile à lire, il est vraiment...
Merci.
Ce sont des... C'est pas un roman avec des chapitres que l'on suit, on peut le prendre. Enfin, moi, je l'ai consommé de cette manière. On peut le prendre par bout, lire 4-5 pages, parce qu'il y a toujours un thème sur ce que j'ai vu. Par exemple, il y a les chiffonniers, ensuite vous parlez des grands-mères, etc. Et puis à la fin, il y a des analyses plus complètes. Ce qui ressort de votre livre, c'est le sentiment que vous avez 31 ans, que le trentenaire, oui. Le jeune trentenaire que vous êtes, se dit je veux réussir ma vie, certes, mais je veux pas réussir ma vie en écrasant les autres, je veux réussir ma vie en étant utile au monde. Est-ce que c'est cela ?
Oui, c'est tout à fait ça. En se disant qu'on peut tous, quel que soit notre métier, notre environnement, on peut tous agir à notre échelle. C'est important chacun de se poser la question, en tout cas pour ceux qui souhaitent se mettre dans cette démarche-là, de se dire bon bah voilà, dans le cadre de mes responsabilités, comment est-ce que moi aussi je peux agir, comment est-ce que je peux avoir de l'impact.
Est-ce que ça n'a pas été finalement dans une majorité d'entrepreneurs, finalement, depuis des décennies et des décennies, le cas? Simplement, ils ne l'exprimaient pas. Bien sûr, il y a eu certains qui agissaient simplement pour gagner de l'argent. Il y a toujours eu des mauvaises exceptions, au sens, voilà, des gens qui ne se souciaient de personne. Mais beaucoup d'entrepreneurs ont toujours donné dans des missions, dans des œuvres caritatives aussi.
En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des entrepreneurs, il y a aussi des acteurs du changement, il y a des consommateurs, des citoyens, des activistes dans des ONG. En fait, dès qu'on se met en route et qu'on les cherche, il y a énormément de monde qui agissent. Simplement, parfois, c'est pas du tout une critique, je dirais, c'est plutôt une remarque, mais dans les médias, on va parfois plutôt entendre parler de la nouvelle guerre, d'un assassinat, de choses qui sont parfois, je dirais, très marquantes, voire un peu tristes. Et on parle parfois un peu moins de toutes ces initiatives positives qui rendent le monde un peu meilleur. Et dès qu'on cherche en fait à découvrir toutes ces initiatives, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui agissent dans l'ombre pour changer le monde.
Alors je rappelais que vous êtes un jeune trentenaire. Est-ce que les plus jeunes que vous, ceux qui ont 24, 25, 26 ans, sont encore plus exigeants que vous? On voit bien toutes ces enquêtes qui apparaissent, par exemple, sur les difficultés de recrutement des entreprises. Et on voit bien que les jeunes salariés de 25 ans se disent « Maintenant, on va fixer nos conditions. On veut être utile à quelque chose. On veut qu'il y ait que l'entreprise, que ma productivité serve aux autres, serve à la planète. »
Eh bien, moi, je trouve que c'est tout à fait louable, et c'est même très bien, parce que c'est de cette façon-là que qu'une entreprise dans laquelle les dirigeants sont peut-être, je dirais, un peu moins réceptifs à ce genre d'initiative, aussi comprennent que c'est plus une question de choix, c'est même des décisions qui sont business. Parce que s'ils s'engagent pas, eh bien, ils auront du mal à recruter les futurs talents. Donc, c'est une initiative parmi d'autres, mais que tous les jeunes sortis d'école qui posent des questions justement là-dessus dans le cadre des entretiens, c'est aussi un moyen de faire bouger les lignes.
Est-ce que l'engagement chez vous est une raison de vivre? Puisque vous racontez que même vos vacances, vous voulez qu'elles soient socialement utiles.
Oui, je pense que c'est devenu quelque chose qui a pris beaucoup d'importance, notamment où, bon, il y a quelques années, c'était un sujet qui m'intéressait. Et comme je l'écris dans ce livre, où je me suis retrouvé, j'étais tombé à pieds joints dans une arnaque il y a quelques années, dans le
Ouais.
cadre d'un stage, un stage de fin d'études, où j'ai rejoint une start-up
100 millions
en
d'euros, hein.
Angleterre, 100 millions
Vous
d'euros
êtes retrouvé
d'arnaque,
dans un. En
et...
fait, vous avez été confronté, je le dis, vous avez été à un patron voyou qui s'est mis dans les poches 100 millions d'euros après une grosse arnaque. Ça vous a un peu fait vomir, c'est ça.
Bah, c'est un sentiment de honte, c'est un sentiment aussi, on se dit, mais c'est pas du tout ce que je veux faire, pourquoi est-ce que je me lève le matin? Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment fait la promesse que je consacrerais mon énergie à des causes il y a une mission, à des valeurs qui me parlent. Et c'est pour moi devenir ensuite une sorte de boussole. Une boussole en m'engageant après avec un entrepreneur qui s'appelle Alexandre Mars, qui était
Oui, je
aussi
connais bien. Ouais.
très impliqué sur ces sujets, en se posant la question, est-ce que en tant qu'actionnaire, quelle peut être notre responsabilité? C'est des droits, mais aussi des devoirs. Et donc, comment est-ce qu'on peut devenir les plus supportifs possibles pour des entrepreneurs qui veulent faire les choses bien, qui veulent s'engager sur ces sujets de RSE, de responsabilité sociale, environnementale, etc. Et on peut avoir un rôle en tant qu'actionnaire. Et donc c'est là où ça revient un petit peu au fil conducteur du livre, de se dire que quel que soit son métier, qu'on soit actionnaire, qu'on travaille dans un grand groupe, quand on fait ses courses, eh bien on peut tous faire des choix. Et des choix qui ont de l'impact. Et c'est un petit peu aussi la loi des chiffres. Il faut pas attendre que ce soit les autres qui fassent. On peut tous se mettre en route dès aujourd'hui. Et c'est un petit peu suite à moi en tout cas cette expérience de vie qui m'a beaucoup marqué, qui a quelques années je me suis mis en route à la rencontre de tous ces acteurs du changement dans différentes sphères, qui sont il y a la sphère des ONG. Où depuis maintenant 7 ans, je consacre 80% de mes vacances, donc la presque totalité, pas tout, je garde les vacances de Noël pour monter des projets dans des organisations sociales exceptionnelles, le monde des affaires et notamment de la finance, le monde de la politique et des médias. J'ai essayé de comprendre et ça m'a amené à rencontrer plusieurs centaines d'acteurs du changement dans une soixantaine de pays. Et c'est un petit peu le résumé de toutes ces réponses que j'ai pu trouver, que j'ai essayé de résumer dans ce livre.
Mais est-ce que finalement ce RSE, il a été pratiqué par des milliers d'entrepreneurs dans le monde, un peu à la prose de Monsieur Jourdain, c'est-à-dire sans dire que c'est du RSE? Quand par exemple, je vous prends deux exemples très opposés, pour montrer que je reste totalement neutre dans mon analyse,
Oui.
vous avez un grand patron, un milliardaire qui est plutôt de gauche, il se dit, il a des entreprises qui gagnent de l'argent, mais en même temps, il finance des trucs à perte, des médias à perte, qui sont plutôt écolos, de gauche, voilà, parce que ça correspond à ses idées. C'est une sorte de politique RSE. Quand vous avez Bolloré ou d'autres qui sont plutôt catholiques, etc., qui financent à perte des médias qui correspondent à leurs convictions ou des livres, eh ben c'est une sorte de RSE, chacun de leur côté, finalement, qui ne dit pas son nom.
Ah bah, complètement, hein. Quand on parle de RSE, aujourd'hui, c'est dans les sujets, quand on regarde un petit peu sur les recherches Google, bah, le mot-clé en tant que tel, le nombre de recherches a complètement explosé. Mais des comportements responsables, en fait, il y a des entrepreneurs engagés, ça existe depuis toujours. Moi, il y a une des entreprises que j'aime beaucoup d'ailleurs qui est Patagonia. Patagonia, c'est pas une entreprise qui est récente et pour autant, les engagements de l'équipe fondatrice étaient sains et ils ont démontré aujourd'hui que on pouvait allier performance économique avec des engagements et des valeurs fortes. Et je prends un autre exemple hein, qui existe depuis maintenant plus d'une quarantaine d'années, c'est Decathlon. Decathlon dans lequel les valeurs de l'entreprise sont très fortes, la culture est forte, les engagements sont forts. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui marche, et qui marche même très bien.
Alors vous parlez de la confiance aussi, parce qu'il y a aussi des phrases qui sont très engagés hein, dans votre livre sur l'État, l'État qui doit rassurer, l'État qui doit donner confiance dans cette société de confiance en favorisant les conditions sur le marché du travail, mais aussi accélérer la transition écologique et sociale. Vous parlez aussi du problème des élections qui arrivent très régulièrement, donc ce qui freine finalement la transition écologique et sociale. Est-ce que derrière tout cela, on se dit qu'on va être dans un tunnel sans fin parce que, comme vous le dites, certains veulent accélérer sur cette transition écologique et sociale, mais on sait qu'il va y avoir de la casse. Puis quand on voit les gilets jaunes qui débarquent au coin des rues, ben on se dit on va reculer. Quand vous parlez de la confiance envers de l'État, vous voyez bien que le niveau de confiance est à zéro. Les Français ne s'aiment plus, finalement.
Certains pourraient être très pessimistes sur les années qui viennent, effectivement, que ce soit sur la crise climatique, qui est aujourd'hui, je pense, l'enjeu majeur à long terme, mais on a aussi des crises comme le fossé qui continue de se creuser, notamment via les inégalités sociales. On le voit, l'expression qu'on peut en voir sont, par exemple, les gilets jaunes. Ça, c'est des sujets qui sont très clairs, qui sont dramatiques. Mais moi, je dirais que je me qualifierais plutôt d'optimiste pragmatique, et je préfère voir le bon côté des choses. Et là-dessus, il y a aussi un certain nombre de solutions, des gens de bonne volonté qui arrivent. Malheureusement, on est parfois un peu dans un contexte où, il y a une certaine inertie, c'est-à-dire que tant que le problème n'est pas suffisamment important, on a tendance à le remettre un petit peu au lendemain. Mais sauf que le lendemain, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et donc, tous ces sujets-là, c'est maintenant qu'il faut les traiter. Et quand on en revient un petit peu à la question des hommes politiques, aujourd'hui, être homme politique, c'est s'engager dans la politique. C'est à la fois des droits et des devoirs. C'est aussi des carrières qui sont pas évidentes dans un contexte où justement la défiance, elle a atteint des niveaux très très important, et donc c'est là où pour moi la question de la confiance elle est clé pour arriver à, parce qu'on a besoin d'hommes politiques, on a besoin aussi de réformes, on a besoin de réglementation, et donc faut pas négliger ces sphères là en se disant de toute façon ces gens là sont tous des pourris, ça sert à rien. C'est pas du tout le cas, et c'est quelque chose que je voulais souligner en proposant un certain nombre de solutions. Exactement.
Génération Impact est publié aux éditions Baribal. Alors, ce qui est intéressant chez vous aussi, Romain, c'est que finalement vous avez connu l'ancien monde. Vous aviez un peu moins d'une dizaine d'années en l'an 2000. En l'an 2000, on était encore au début du nouveau monde, à la fin de l'ancien monde. Vous savez comment on vivait dans l'ancien monde. Vous avez peut-être encore quelques souvenirs. Vous êtes confronté à des jeunes qui ne connaissent que le nouveau monde, ceux qui arrivent, ceux qui ont 25, 20, 26 ans. Comment voyez-vous le monde de demain? On nous dit que plus personne ne sera propriétaire, que les écarts de salaire n'existeront plus dans la plupart des entreprises. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous dites ils sont des utopistes, ou est-ce que finalement les choses s'accélèrent tellement vite que vous avez espoir de voir les choses changer dans ce que vous défendez?
Moi, je dirais toujours que j'ai espoir de voir les choses changer dans le bon sens, mais c'est aussi très clair que les défis seront absolument énormes, et notamment je pense que personne n'a non plus de boule de cristal, parce que tout ce qui va toucher à la technologie, notamment aux métiers, les métiers d'aujourd'hui par rapport aux métiers d'il y a 10 ans, par rapport aux métiers qui existeront dans 50 ans, on est aujourd'hui dans une accélération telle que l'innovation, etc., va complètement changer le monde de demain. Et donc moi, ce que je dirais, c'est que Je résumerai ça en un mot, qui est la capacité d'adaptation, où en fait les jeunes comme les moins jeunes vont devoir s'adapter et se renouveler, se reformer beaucoup plus vite dans un contexte où les enjeux, notamment liés à l'énergie, la crise climatique, eh bien feront partie de chacune des décisions qui seront prises en entreprise à tous les niveaux hiérarchiques.
Sommes-nous en train de retrouver un véritable clivage de trentenaires? Je vais préciser ma question, Romain Sion. J'ai bien analysé les mots de votre livre, ce que vous pensez, par exemple, sur l'éducation, sur les droits de l'homme. Vous allez reverser vos bénéfices à génération, à banlieusards nouveaux, pour aider les jeunes des cités à réussir, voilà, en montrant des bons exemples. Moi, je vois beaucoup de Romain Sion comme vous, qui pensent comme vous.
Ouais.
Et je vois aussi beaucoup de Romain Sion qui ont le même âge que vous, qui sont à l'opposé. C'est-à-dire qu'il vous explique que le réchauffement climatique, c'est une gigantesque escroquerie qui vise à rendre l'homme en esclavage, que la France est en perdition, qu'ils sont, semble, politiquement très très à l'opposé de vous. Vous m'avez compris, qu'ils ont sans doute voté pour Zemmour aux dernières élections. Dans ces deux clivages, j'ai l'impression qu'on retrouve un clivage un peu qui existait dans les années, vous avez suffisamment de culture pour le savoir, qui existait dans les années 60, dans les années 70, mai 68. Voilà, cette opposition très forte, on est en train de la retrouver, alors qu'elle avait disparu finalement après la chute du mur de Berlin, où l'opposition, c'était finalement entre celui qui vote Lionel Jospin et celui qui va voter Jacques Chirac. Vous voyez bien que la différence, c'est une feuille de papier à cigarette, mais ils avaient l'impression d'être très, très opposés l'un et l'autre. Et là, on retrouve des vrais clivages. Qu'en pensez-vous?
Ah bah, j'en pense que l'existence de ces clivages, elle est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et que sans rentrer dans qui a tort, qui a raison, parce que...
Bah vous allez forcément dire que c'est vous qui avez raison.
Ah bah, mais ce qui est assez intéressant, c'est quand on prend le temps, en fait, de discuter avec les uns et les autres, on peut comprendre, en fait, parfois pourquoi les uns et les autres ont une opinion qui est différente. Et pour moi, je répondrais à deux choses. C'est l'importance c'est l'ouverture d'esprit. C'est chercher à comprendre, ne pas prendre toute information comme pour argent comptant. Et c'est là où parfois les réseaux sociaux peuvent donner l'impression de caisse de résonance où en fait on va être abreuvé d'informations qu'on souhaite entendre et pas d'avis différents. Et le fait de pouvoir juger d'une information qui est fiable ou pas, de vérifier ses sources et de se confronter à différents points de vue, pour moi c'est absolument clé pour pouvoir se constituer une opinion. Et là-dessus, je pense aussi que les médias, ils ont une responsabilité là-dessus pour pouvoir aussi, je dirais, partager un certain nombre d'informations brutes permettant aux gens de se constituer leur propre opinion. Et il y a certains médias que je trouve assez intéressants, comme par exemple Brut.
Mais vous avez investi dans Brut, voilà.
Alors, on a rejoint l'aventure de Brut.
Je l'ai lu, vous voyez que j'ai lu. Hein.
Et ce que je trouve génial là-dessus, c'est qu'ils cherchent à enlever un maximum une quelconque ligne éditoriale et en se concentrant sur les faits pour qu'ensuite que l'auditoire puisse se constituer une opinion. Et ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement écouter Brut, mais c'est qu'il faut multiplier les sources d'informations et bien entendu que ce soit aussi sur le sujet de les voyages, le fait de pouvoir aller à l'étranger, d'être confronté à un maximum d'opinions différentes, bah, c'est aujourd'hui clé pour justement se constituer son propre libre arbitre ou jugement.
Vous savez bien qu'une certaine époque, Romain Sion, voilà, je vais peut-être vous l'apprendre, on disait qu'il fallait, pour avoir une véritable opinion, il fallait acheter tous les matins Le Figaro et l'Humanité. Voilà, et on confrontait les deux. Hein.
Bah c'est un bon, c'est, je pense, un très bon exemple. Voilà.
J'ai une dernière question.
Oui.
Le livre est bien écrit. Vous êtes quelqu'un, on le sent sincère. De toute façon, on ne peut pas mentir à travers toutes les anecdotes, les voyages que vous avez fait, que vous avez raconté. Puis on a vu des générations précédentes. Voilà. On a vu des Bernard Kouchner, des gens comme ça qui étaient aussi un peu sincères. j'ai aucune raison de douter de sa sincérité. Hein, voilà. Et puis cette génération précédente a eu en 68 des Jacques Séguéla, là, des, voilà. Mais c'est que des gens qui ensuite ont tout oublié leurs valeurs et n'ont fait que du pognon. Alors comment faire pour ne pas et qui sont très sympathiques. Voilà, c'est pas un grief. Hein. Voilà, je dis pas que c'est une trahison. Je dis simplement, au fil du temps, ils ont oublié leurs valeurs, ils ont fait du pognon. Honnêtement, certes, peut-être. Voilà. Mais c'est pas méchant ce que je dis. Comment faire pour que le fil du temps, ben, ne vous transforme pas naturellement de la même manière.
Alors j'ai une réponse pragmatique et une réponse, je dirais, avec un peu d'humour. La réponse pragmatique, c'est que je pense que j'ai eu la chance de découvrir l'envers du décor. Où en fait, l'un de mes premiers métiers, ça a été de partir à la rencontre des grandes fortunes en Europe. Et donc pendant 3 ans et demi, j'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et la conclusion de et j'en parle justement dans le livre.
Très simple, c'est des gens très simples.
L'argent ne fait exactement, et l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et donc, moi, je suis convaincu qu'il faut avoir un certain, il faut pouvoir manger, boire, dormir, pouvoir partir en vacances, etc. Mais une fois qu'on a atteint un certain niveau de vie, il n'y a pas besoin de, une fois qu'on a une voiture, d'en avoir 7 de plus, ou 8 de plus, ou 15 de plus. Et ça, je l'ai pu le constater en voyant, en rencontrant notamment des personnes qui étaient très, très riches. Et donc, moi, à ma petite échelle, aujourd'hui, je vis très bien. Je cherche pas à amasser un maximum et à en faire un objectif de vie, parce que j'ai pu voir les travers que ça pouvait avoir aussi. Et puis l'autre chose, c'est là, c'est plutôt ma mère qui m'a dit: Romain, si un jour tu commences à être perverti par l'argent, je serai là pour te rattraper au vol.
Eh bien, vous avez une bonne maman qui vous éduque très très bien.
Voilà.
Dans notre vie quotidienne, je pense que vous êtes comme moi aussi. Moi, je fais toujours attention. C'est mon dernier point. Quand j'achète quelque chose, il y a un produit quelques euros plus cher, si je sais qu'il a été fait en France. Ben, je le préfère à quelques euros plus cher parce qu'il a été acheté en France. Voilà. Quand il y a un service ou l'absence de service, je vais là où il y a le service. Vous voyez ce que je veux? On se fait notre RSE, je pense que vous êtes comme moi. Et beaucoup de gens le font.
C'est, moi, je dirais que j'appelle ça le nouveau bulletin de vote. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voter aux élections. Mais c'est aussi une certaine façon d'exprimer... son avis, son opinion, que d'acheter un produit, de choisir ce qu'on met dans son caddie. Finalement, la carte bancaire, c'est presque un bulletin de vote. Et il y a notamment des exemples assez marquants, hein, avec par exemple la crise sur le lait Danone au Maroc, où du jour au lendemain, il y a des dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui ont décidé d'arrêter un produit, qui correspondait pas aux attentes des clients, et l'impact il s'est pas fait attendre. Et ça, c'est aussi un acte d'activisme que de faire attention à ce qu'on achète et de regarder, voilà, la provenance, d'où est-ce que ça vient, et quand on en a la chance, hein, de pouvoir aussi accepter de payer un peu plus cher, son produit, parce que justement ça correspond aux valeurs qu'on veut défendre.
Merci Romain. Romain Sion, je rappelle que vous avez 31 ans, vous avez déjà derrière vous une très belle réussite professionnelle dans le monde de l'investissement, dans les startups. De très nombreux entrepreneurs vous connaissent, vous dirigez un fonds important de capital risque en Europe qui soutient aussi des ONG, qui reverse une partie de ses bénéfices à des ONG. Et vous racontez votre histoire dans ce livre publié par les éditions Baribal, qui s'appelle Génération Impact. Vous nous racontez simplement comment votre vie, à un moment, vous étiez rentré dans le vrai milieu, à la Wall Street, hein, voilà, comme dans les films. un patron devant vous, vous voyez cette arnaque à plus de 100 millions d'euros, un patron voyou, ça vous dégoûte, vous changez votre manière de voir les choses et vous êtes à l'image de cette génération qui ne veut plus travailler inutilement, simplement pour remplir son caddie, même si c'est important et même si c'est respectable. Mais il faut quand même que dans sa vie de tous les jours, on ait un impact dans ses décisions, dans les valeurs dont on fait la promotion aussi. C'est ça, hein ?
Je suis tout à fait d'accord.
Voilà, Romain.
Exactement.
Sion à lire absolument. Génération Impact.
Et le livre est disponible donc en librairie et sur Internet.